Où irons-nous après notre mort ? Ça casse un peu l'ambiance, cette question. Le texte sur lequel je vais prêcher aujourd'hui propose une réponse indirecte à cette question majeure, vitale, pressante et je dirais même stressante quand on ne sait pas justement où on ira après sa mort. Oui, dans cette prédication, je vais tenter humblement de vous parler d'une histoire dans la Bible qui me touche toujours autant depuis 11 ans que je suis devenu chrétien. Cette histoire me concerne personnellement, mais elle vous concerne aussi. Elle nous concerne tous, en fait. Et je vais m'attacher à vous le démontrer ce matin. Alors, je dois être honnête avec vous. Au départ, j'avais prévu de prêcher sur un texte complètement différent. Et j'avais quasiment fini ma prédication prévue initialement. Jusqu'à ce que j'acquière la conviction profonde que le Seigneur avait un autre message que mon propre message à faire passer ce matin. Alors, ce matin, je vais vous lire un texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23. Alors, l'Évangile de Luc, c'est, pour un élément de contexte, c'est le troisième des quatre évangiles que l'on trouve dans le Nouveau Testament, qui est la seconde partie de la Bible. Chaque évangile raconte l'histoire de Jésus, ainsi que sa mort et sa résurrection. Et là, nous serons à la fin de l'Évangile de Luc, dans l'avant-dernier chapitre. Jésus vient d'être flagellé, condamné à la crucifixion par le gouverneur romain Pilate, ainsi que par certaines autorités religieuses juives de l'époque que Jésus dérangeait. Et ce texte, en fait, relate très précisément la crucifixion de Jésus, c'est son thème principal. Donc je vais lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, versets 32 à 43. Évangile de Luc, chapitre 23, versets 32 à 43. Pardon, oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est le stress. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc le titre de mon message, « Où irons-nous après notre mort ?» La scène de notre récit se déroule en l'an 33 de notre ère en Israël, à Jérusalem. L'intrigue s'articule autour de la crucifixion et de la mort de Jésus et des réactions qu'elle suscite chez ses bourreaux, chez ses contradicteurs et chez ses spectateurs. Deux malfaiteurs sont conduits à la mort avec Jésus et crucifiés avec lui. Nous ne savons pas grand-chose, à vrai dire, de ces deux malfaiteurs. Selon certaines traditions extra-bibliques, il s'agirait au meilleur des cas de voleurs et au pire des cas de meurtriers, y compris de meurtriers de femmes et d'enfants. À vue humaine, Jésus n'est pas différent des autres crucifiés, en ce sens que les trois hommes ont été condamnés comme criminels. Et c'est là une sombre injustice, puisque Jésus est mis au même rang qu'un malfaiteur, alors qu'il n'a commis absolument aucun crime, ni même aucun péché. Et la réaction de Jésus face à ses bourreaux et assassins, face à ceux qui l'ont crucifié, en l'occurrence une escouade de soldats romains, est pour le moins extraordinaire et peu commune. Il prie pour eux et intercède pour eux auprès de Dieu son Père, par cette prière merveilleuse, cette prière pleine de grâce pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Face à une haine insoutenable et injustifiable manifestée à son encontre, Jésus révèle son amour infini et pratique ce qu'il a toujours prêché, à savoir le pardon et l'amour pour ses ennemis. La réaction de Jésus se singularise vraiment par l'amour qu'il porte à ceux qui le crucifient, à ceux qui le détestent, à ceux qui se moquent de lui, à ceux qui l'insultent. Toutefois, cette demande de pardon de Jésus n'est pas anodine, car en crucifiant le Fils de Dieu, ces soldats viennent de commettre la plus grande injustice qui ait jamais eu lieu sur la terre. Ils viennent de crucifier le seul homme juste que la terre ait jamais porté. Et cette prière, je crois que Jésus ne l'a pas faite uniquement pour les hommes de son époque, qui furent ses bourreaux directs, si l'on peut dire. Mais cette prière, il l'a faite aussi, pour vous aussi, et pour moi. Car en définitive, la parole de Dieu nous apprend que ce sont nos péchés, à nous tous, qui l'ont crucifié. Face à cet amour infini manifesté par Jésus, quelle est la réaction immédiate des bourreaux à cette prière d'intercession de Jésus pour leur pardon ? Il tire ses vêtements au sort, autrement dit, il l'humilie encore et semble se moquer de son pardon. Quelles sont les réactions du peuple ? Indifférent, semble-t-il, il se tient là et regarde. Quelle est l'attitude des magistrats, des soldats ? Non content d'avoir crucifié le Fils de Dieu, il se moque encore de lui. Les magistrats, sans doute des Juifs, remettent en cause sa messianité, et les soldats, sans doute des non-Juifs, remettent en cause sa royauté, ainsi que dans les deux cas, sa capacité et son statut de sauveur. Ils ne sont pas juste passifs par rapport à sa souffrance terrible, mais ils sont même agressifs envers lui. Leur haine et leur cruauté contrastent avec la bonté infinie de Jésus pour eux. « Personne n'est bon en dehors de Dieu », avait prévenu Jésus. Et quel est le seul et unique motif d'accusation que l'on ait pu trouver contre Jésus ? Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. N'ayant pu trouver aucun péché en Jésus, on n'a pu que contester sa royauté. Et ironiquement, Dieu permet qu'elle se retrouve sur la croix. Le fait que cette royauté se trouve écrite en trois langues, en hébreu, en grec et en latin, indique que Jésus est le roi et le sauveur non seulement des Juifs, mais aussi des non-Juifs. Jésus est le sauveur du monde. Jésus n'exclut personne, quelles que soient ses origines. Mais voilà que Jésus-Christ, le sauveur du monde, est raillé par les magistrats et les soldats qui lui enjoignent de manière sarcastique de se sauver lui-même. Mais justement, pourquoi Jésus ne se sauve-t-il pas lui-même ? Est-ce qu'il ne le peut pas ? Ou est-ce qu'il ne le veut pas ? Jésus ne se sauve pas lui-même précisément pour que les autres soient sauvés. Jésus, qui est Dieu, pouvait très bien à tout instant descendre de la croix et ne pas mourir et abandonner l'humanité à son sort, auquel cas aucun d'entre nous ne serait sauvé. C'est son amour pour son Père et son amour pour l'humanité qui l'ont aidé à tenir jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et il se trouve que les deux brigands crucifiés avec Jésus ne sont pas en reste dans leurs insultes envers Jésus. Les évangiles de Matthieu et Marc nous apprennent qu'à la base, pas seulement un brigand, mais les deux brigands, les deux malfaiteurs insultent Jésus. Au début, tous les deux ont la même attitude rebelle et tous les deux lui disent pour se moquer « Sauve-toi toi-même ». Ces deux brigands, donc celui de droite comme celui de gauche, insultent ce Jésus qui est en train de payer leurs péchés à leur place, se moquent de lui, le refusent aussi bien en tant que Seigneur qu'en tant que Sauveur. Ils n'accordent aucune crédibilité à cet homme mourant sur cette croix qui est compté parmi eux, parmi les criminels, qui s'identifie à eux alors que lui n'a rien fait de mal. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais Dieu merci, l'histoire ne s'arrête pas là. Luc, dans l'évangile que je vous ai lu à l'instant, nous raconte la suite de l'histoire, qui finit mieux qu'on ne pourrait l'espérer. D'un seul coup, comme par miracle, l'un des deux brigands qui insultait Jésus se reprend. Et voilà qu'il se met à reprendre aussi l'autre brigand. Et voilà qu'il reconnaît que Jésus n'a jamais rien fait de mal, rien fait qui ne doive pas se faire. Et voilà qu'il confesse humblement qu'il est pécheur, sans se trouver la moindre excuse. Et voilà que malgré qu'il voit Jésus mourir sous ses yeux, il croit en son retour et en sa royauté, ce qui dénote une grande foi de sa part. Et lui aussi va bientôt mourir, mais pour aller où ? Sans doute pas au paradis, non, car il n'a fait aucune bonne œuvre qu'il vaudrait d'être justifié devant Dieu. Mais voilà que dans un dernier élan de désespoir et de foi, il se tourne quand même vers Jésus, en le reconnaissant cette fois comme son sauveur, son Seigneur et son roi. Il lui dit « Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas lorsque tu viendras dans ton règne. » C'est la même prière que Samson, dans le livre des Juges, a adressée à Dieu quand il était dans le désespoir. « Seigneur, souviens-toi de moi, ô Dieu, je t'en prie. » Et la réponse de Jésus à ce cri de désespoir dépasse toute espérance et va même au-delà de ce que le brigand demande, car le brigand, lui, parle d'un jour futur, lointain, alors que Jésus, lui, il lui promet d'être au paradis avec lui aujourd'hui même. Bien des fois, des larmes ont jailli de mes yeux en lisant ce passage. Dans ce merveilleux verset 43, on a l'idée très nette qu'être dans le paradis implique d'être avec Jésus. Autrement dit, pas de paradis possible sans Jésus. Ce verset nous indique également que Jésus est capable d'offrir le paradis avec lui, qu'il en est le détenteur, et que c'est en s'adressant à lui qu'on peut y aller. Hélas, le deuxième brigand va rester dans son endurcissement, ne va pas faire la même démarche, et va malheureusement devoir affronter le jugement de Dieu après sa mort. Ce brigand qui n'est pas sauvé dit paradoxalement à Jésus « Sauve-nous avec toi ». L'ironie du sort, c'est que Jésus est en train de les sauver, justement, mais pas au sens où lui l'entend. Lui veut être sauvé de la mort physique, alors que Jésus veut le sauver de la mort spirituelle. Comme on l'a vu dans le verset 34, Jésus demande à son Père le pardon pour tous ses ennemis. Mais dans le verset 43, le même Jésus ne peut assurer le paradis qu'à celui d'entre eux qui reconnaît le mal qu'il a fait et qui se tourne vers lui. Le verset 34 montre un pardon potentiel pour tous. Mais le verset 43 montre un pardon effectif seulement pour le brigand de droite, qui symbolise tous les repentis de toute l'humanité. Donc il ressort de notre récit que même si Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, on n'ira pas tous au paradis, comme je l'avais déjà souligné lors de ma première prédication. Alors certains pourraient me dire « C'est bien beau, cette histoire datant d'il y a près de 2000 ans, mais tout cela ne me concerne pas vraiment. » Permettez-moi de vous dire que dans la Bible, il y a à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Il est mieux de commencer par la mauvaise et de terminer par la bonne. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus. Et en fait, je vous dirais qu'on ne peut pas véritablement comprendre la bonne nouvelle sans d'abord connaître la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle pour nous, c'est que, comme ces deux malfaiteurs de notre récit, nous avons tous péché. La Bible définit le péché d'une manière très claire. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement tuer ou voler, c'est bien plus vaste que cela. Pour prendre un exemple très simple, Dieu nous commande de ne pas mentir. Or, quel homme n'a jamais menti ? Même le pape ne peut pas dire qu'il n'a jamais menti. Dieu nous commande également de ne pas dire du mal de notre prochain, de ne pas commettre d'adultère, même en pensée, d'aimer tout le monde, de bénir tous ceux qui nous font du mal, etc., etc. Qui peut dire qu'il n'a jamais transgressé ces lois divines ? Les Juifs ont dénombré 613 commandements, rien que dans l'Ancien Testament. Vous comprenez bien que nous sommes incapables par nous-mêmes d'obéir parfaitement à tous ces commandements. Et quand bien même nous n'aurions transgressé qu'un seul de ces commandements, nous serions déjà coupables aux yeux de la loi de Dieu. Un gâteau peut être très bon, mais s'il y a une seule goutte d'arsenic en lui, il reste un gâteau empoisonné. Et voilà la mauvaise nouvelle pour nous, c'est que, parce que Dieu est juste, il ne peut pas rester indifférent à nos péchés. Et Dieu doit faire justice de ses péchés. Et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et aucune bonne œuvre ne peut nous sauver, nous dit la Bible. Et c'est là qu'entre en jeu la bonne nouvelle, et c'est le sens du mot « évangile » en grec. Je dois vous dire en toute honnêteté que Jésus-Christ n'est pas venu avant tout pour nous donner une belle vie remplie de paix et de joie, même si la paix et la joie font partie de ses promesses. Mais Jésus-Christ est venu avant tout pour nous donner le paradis, oui. Et aussi, et c'est moins facile, moins évident d'en parler, pour nous sauver de la pire de toutes les souffrances, face à laquelle toutes les autres souffrances terrestres, même les pires que nous pouvons vivre, ne sont rien. Cette souffrance, les mots ne peuvent même pas la décrire. Cette souffrance, c'est l'enfer éternel, qui résulte de la séparation éternelle d'avec Dieu et qui est la conséquence logique du péché. En tant que prédicateur, je suis conscient que je serai plus sévèrement jugé. J'aurai des comptes à rendre devant Dieu pour vos âmes. Et croyez-le bien, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous parle de l'enfer. Et cela me demande beaucoup de courage, moi qui suis lâche par nature. Mais je le fais par obéissance à Dieu, par amour pour Dieu et par amour pour chacun d'entre vous ici présents. Je n'ai donc pas le droit de vous mentir et de vous cacher toutes les parties négatives de la Bible, enfin, qu'on peut considérer comme négatives en tout cas. Alors, je vais vous partager un témoignage personnel à ce sujet. Donc, mon but n'est pas de vous raconter ma vie, ni non plus de vous choquer, mais je sais que devant Dieu, j'ai le devoir de vous faire part de cette expérience que j'ai faite. C'est très difficile à expliquer avec des mots, mais il y a 9 jours de cela, j'ai eu un électrochoc en lisant des témoignages de nombreux chrétiens disant avoir vu l'enfer. Et j'en ai été sincèrement terrifié. Alors ces témoignages, on y croit ou on n'y croit pas. Là n'est pas la question. Mais toujours est-il que je sentais au fond de moi depuis quelque temps que mon cœur s'était endurci. Je tolérais de nombreux péchés dans ma vie et Dieu m'a vraiment repris par son Saint-Esprit. Je me suis repenti cette nuit-là, je suis tombé à genoux devant Jésus. Et je l'ai supplié de me pardonner tous mes péchés et de m'en délivrer. Et voici la réponse que j'ai reçue. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ensuite, le lendemain, j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas être le seul chrétien à être conscient de la gravité de l'enfer. Et je lui ai demandé qu'il mette sur ma route d'autres chrétiens ayant cette même prise de conscience. Et croyez-le ou non, le jour même et dans les jours qui ont suivi, j'ai parlé avec pas moins de 7 chrétiens et chrétiennes qui ont vécu le même électrochoc que moi. Je peux vous dire que depuis cette expérience que j'ai vécue, j'ai retrouvé le zèle du début de ma conversion. Et Dieu me donne par sa grâce d'être rempli d'amour pour lui et d'être rempli d'amour pour toutes les personnes que je rencontre, quelles qu'elles soient. Peut-être dans la vie, il y a des personnes avec qui vous avez du mal, mais je vous invite vraiment à les voir avec les yeux de Jésus-Christ, avec le regard de Jésus-Christ, en vous disant que ce sont des âmes précieuses aux yeux de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Et selon la Bible, il n'y a que 2 destinations possibles après notre départ de cette terre. Soit le paradis éternel avec Dieu, soit l'enfer éternel loin de Dieu. Il n'y a pas de troisième voie, comme j'ai pu le croire avant d'être chrétien. Ni le néant, ni le purgatoire, ni la réincarnation n'existent. Et toujours selon cette même Bible, c'est ici-bas, dès à présent, que nous devons choisir où nous allons passer notre éternité. Dieu nous dit de manière très nette dans sa parole, « Choisissez entre la vie éternelle ou la perdition éternelle. » Notre vie sur terre n'est qu'un passage. Elle est très courte au regard de l'éternité. Et c'est ici-bas, comme je l'ai dit, que nous décidons où nous allons passer l'éternité, en acceptant ou en rejetant Jésus. Tout comme ces 2 malfaiteurs, nous devons faire notre choix et personne ne peut le faire à notre place. Et c'est précisément parce que l'enfer est un lieu si terrible que Jésus a dû mourir sur la croix parce qu'il aime chacun d'entre nous, il aime chacun d'entre vous. Que vous l'ayez ignoré, que vous le connaissiez ou non, il vous aime. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu s'est incarné en Jésus et il a accepté de subir à ma place et à votre place les conséquences de tous nos péchés. Et ainsi, il est mort par amour pour nous sur la croix. Moi qui ai étudié toutes les religions avant d'être chrétien, je peux vous dire que nulle part ailleurs que dans le christianisme, on ne trouve un Dieu d'amour qui nous aime au point de venir mourir pour sauver les pauvres humains pécheurs que nous sommes et que lui considère comme des créatures merveilleuses et qui ont du prix à ses yeux. Pardonnez-moi de vous le dire, mais ni Bouddha, ni Mahomet, ni même Marie, ni même aucun ange ne sont morts pour vous. Seulement Jésus est mort pour vous, et personne d'autre. Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement qu'en passant par moi. » Jésus est le seul chemin. Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, s'est donné en rançon pour tous. Vous avez bien entendu, pour tous, pas pour une élite, pas pour quelques-uns, Même pas pour la majorité des hommes, non. Pour tous les hommes, un homme, Jésus-Christ, s'est donné, nous dit la Bible. Un homme, oui, mais pas n'importe quel homme. Un homme avec un H majuscule. Un homme né sans péché et qui n'a jamais péché. Un homme conçu du Saint-Esprit au travers d'une vierge. Le seul homme parfait qui ait jamais existé sur cette planète. Mais plus encore, un homme qui, en fait, est Dieu fait homme. Dieu venu sous la forme d'un homme, non pas réclamer ses droits, ce qu'il aurait pu faire, mais Dieu venu donner sa vie sur la croix pour que personne n'aille en enfer. Voilà la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout fait pour qu'aucun d'entre nous n'aille en enfer. Jésus, sur cette croix, a accompli l'œuvre de notre salut que nous-mêmes n'aurions jamais pu accomplir, tant le prix en était élevé et même impossible à payer. Jésus vous aime, voilà ce que j'aimerais vous dire ce matin. Il vous veut avec lui dans le paradis. Je vous invite vraiment à ne pas passer à côté de ce cadeau qu'il vous offre. Peu importe l'étendue de votre péché, vous pouvez être sauvé aujourd'hui même si vous vous repentez et si vous croyez à la bonne nouvelle. Comme nous l'a expliqué Fabrice lors de la prédication de dimanche dernier, la repentance et la foi sont indissociables, elles vont de pair. La parole de Dieu nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne obtiendra miséricorde. » La repentance, c'est la confession, plus l'abandon du péché et la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies. Au regard de la Bible, on ne peut pas croire véritablement en Jésus sans se repentir, ni se repentir sans croire en Jésus. Pour vous le dire autrement, il ne suffit pas d'accepter Jésus seulement comme son sauveur, mais il faut aussi l'accepter comme son Seigneur et comme le roi de sa vie, tel ce brigand sur la croix, qu'il a appelé Seigneur et qui le considérait comme un roi. Pour tous ceux d'entre vous qui peut-être ce matin vous sentez loin de Dieu, tout comme je me sentais loin de Dieu, sachez que Dieu attend vos prières de repentance. Il est prêt à recueillir vos larmes dans son outre. Il vous attend à bras ouverts pour pardonner tous vos péchés et pour vous en délivrer. La grâce de Dieu est offerte encore ce matin pour quiconque reconnaît ses fautes, les abandonne et se tourne vers Jésus pour son salut. Et croyez-moi, c'est la plus grande décision que vous pouvez prendre de toute votre vie. Nous tous qui sommes chrétiens, je nous invite à ne pas mépriser la grâce de Dieu en continuant de vivre dans le péché sans jamais nous en repentir. Quant à vous qui peut-être n'êtes pas chrétien ou en questionnement, je vous invite à faire un pas de foi vers Jésus, comme le brigand sur la croix, en reconnaissant que vous êtes pécheur, que vous avez besoin du pardon, et en acceptant personnellement Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Je veux aussi lancer à tous les chrétiens ici présents trois appels. Le premier appel, un appel à la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, nous dit la Bible. Le deuxième appel, un appel à la prière pour le salut des membres dans nos familles qui ne sont pas chrétiens, de nos amis, de toutes les personnes que nous rencontrons. Et le troisième appel, un appel à l'évangélisation. Je crois que quand on aime vraiment les gens, on ne peut pas ne pas être triste de penser qu'ils sont en route pour l'enfer, qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nous avons, nous, chrétiens, un témoignage à donner. Nous avons un évangile à annoncer et à partager autour de nous. Pour conclure, je dirais qu'une occasion nouvelle est offerte par Dieu ce matin à tous ceux qui peut-être n'ont jamais accepté Jésus de le faire. Et une occasion nouvelle est aussi offerte ce matin pour tous ceux qui ont accepté Jésus mais qui se sont éloignés de lui ou qui se sont refroidis dans leur premier amour pour Dieu. Dieu vous appelle à revenir à lui, comme ça a été dit d'ailleurs dès le début du culte. Vous pouvez simplement adresser cette simple prière à Jésus comme le brigand sur la croix. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Merci pour votre écoute.